VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 1er juin. En direct de Washington, Anne Albertson. Tout d'abord les titres. Au Mali, attaque à la voiture piégée contre un camp des casques bleus de la MINUSMA. Au Congo-Brazzaville, les opposants veulent un dialogue sous l'égide de la communauté internationale pour une sortie de crise. Au Kenya, le président Kenyatta a rencontré mardi son rival Raila Odinga dans une tentative de faire baisser la tension dans le pays. Un avion d'Égyptair à destination de la Thaïlande a été évacué tôt ce matin à l'aéroport du Caire en raison d'une fausse alerte à la bombe. Les forces irakiennes faisaient face mardi à une forte résistance du groupe État islamique dans leur avancée vers le centre de Fallujah. Et ne manquez pas la Minute Éco et les sports, mais pour l'instant, le journal. Au Mali, le camp de la MINUSMA tenu par le contingent chinois à Boulgoundié dans la ville de Gao a été l'objet d'une attaque à la voiture piégée dans la nuit de mardi à mercredi. Les populations ont été prises de panique. Le bilan qui pourrait s'alourdir au cours de la journée fait état de plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels. De Gao, correspondance de Boubacar Touré.
La forte détonation qui a été entendue s'est produite au niveau du camp de la MINUSMA 6 à Boulgoundié, en plein centre-ville, un camp tenu par le contingent chinois. C'est un véhicule piégé qui a voulu forcer le passage qui a explosé à la rentrée du camp, suivi de coups de feu qui seraient venus de l'extérieur. Des coups de feu qui ont duré plusieurs longues minutes, obligeant les populations prises de panique à se précipiter dans leurs maisons. Du coup, les rues sont devenues désertes. Le bilan qui pourrait s'alourdir au cours de la journée fait état de plusieurs blessés évacués à l'hôpital et des dégâts matériels considérables. Des hélicoptères ont passé des heures à tourner au-dessus de la ville. Pour l'instant, les auteurs et le mobile de ces attaques ne sont pas encore connus. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Eh bien, merci beaucoup, Boubacar Touré. Idrissa Seludia, de nouveau avec vous, et Anne Albertson. Au Congo-Brazzaville, les opposants réclament un dialogue sous l'égide de la communauté internationale, le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, une des principales plateformes d'opposition au président congolais Denis Sassou Nguesso, estime que la tenue d'un dialogue inclusif sous l'égide de la communauté internationale est l'unique issue de sortie de crise au Congo.
Même demande
du côté du Conseil national des Républicains du pasteur Ntoumé. On écoute à ce sujet Stosten Samba du CNR.
Le révérend pasteur Ntoumé demande qu'il y ait cessation des hostilités, qu'il y ait cessez-le-feu et qu'il faut instaurer un dialogue entre M. Denis Sassou Nguesso et le CNR du révérend pasteur Ntoumé. Et que ce dialogue-là doit être supervisé par l'opinion internationale, donc l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies. Et aujourd'hui, par rapport à la situation qui prévoit dans le pool, le révérend pasteur Ntoumé demande le dialogue pour épargner la population civile de ces massacres-là. Parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas, M. Nicolas, que la population du pool est en proie au bombardement. C'est une population civile et désarmée qui ne demande rien qu'autre que la paix.
C'était Sosten Samba, joint à Montréal par Nicolas Pineau.
Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a rencontré mardi le leader de l'opposition dans l'espoir de faire baisser la tension dans le pays. Les précisions de Michel Joseph.
Le chef de l'État kényan a eu un bref entretien au palais présidentiel avec l'opposant Raila Odinga et le chef de file de l'opposition au Sénat, Moses Wetangulu. La présidence kényane n'a fourni aucun détail sur les discussions, mais un responsable de l'opposition avait annoncé que la commission électorale serait à l'ordre du jour. Cette rencontre fait suite à la décision de la coalition que dirige Raila Odinga de suspendre ses manifestations hebdomadaires. Depuis la fin du mois d'avril, l'opposition descend régulièrement dans la rue pour exiger la suppression de la commission électorale qu'elle accuse de partialité. Ces manifestations ont souvent conduit à des affrontements avec la police. La semaine dernière, 3 personnes ont été tuées dans l'ouest du pays. Ayant encore en mémoire les violences qui avaient fait quelques 1200 morts après les élections de 2007, les leaders religieux et les diplomates occidentaux ont appelé au dialogue. Des élections présidentielles et législatives sont prévues en août 2017.
Toujours au Kenya, Nairobi a réaffirmé mardi sa volonté de fermer d'ici à novembre le camp de réfugiés de Dadaab, qui accueille essentiellement des Somaliens fuyant le pays en guerre. Maïlys Hegel.
Avec plus de 350 000 personnes, ce camp est le plus grand du monde. Il est situé près de la frontière avec la Somalie, déchirée par une guerre civile depuis plus de 20 ans. Depuis un mois, le gouvernement kényan répète qu'il veut fermer le camp de réfugiés somaliens pour des raisons de sécurité. Nairobi affirme, sans donner de preuves, que c'est à Dadaab qu'ont été planifiées les attaques des islamistes Shebab contre le centre commercial Westgate en 2013 et l'université de Garissa en 2015. Les ONG et l'ONU qualifient cette décision de très préoccupante. Des militants des droits de l'homme ont signalé que le rapatriement des réfugiés constituerait une violation du droit international. Selon Ben Lawrence, auteur du livre City of Thorns, qui raconte la vie de réfugiés à Dadaab, le Kenya fait de la surenchère pour obtenir plus d'argent pour l'accueil des réfugiés, construire des écoles et des routes dans le nord-est du pays et renforcer la sécurité autour des camps. La dernière fois que le Kenya a menacé de fermer Dadaab, en avril 2015, les États-Unis avaient promis 45 millions de dollars.
Le Front Polisario, qui se bat depuis 40 ans pour l'indépendance du Sahara occidental, a perdu hier son dirigeant historique. Mohamed Abdelaziz est décédé des suites d'une longue maladie. Claire Morin-Gibourg.
Le mouvement indépendantiste a annoncé la mort de son chef, mais n'a pas fourni de précisions sur les circonstances de son décès. En février dernier, Mohamed Abdelaziz était apparu affaibli en recevant le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, dans un camp de réfugiés à Tindouf, en territoire algérien. Le Polisario a décrété un deuil de 45 jours pour rendre hommage à son chef. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a, de son côté, décrété un deuil de 8 jours. Aux côtés de Mustapha Sayed El Ouali, Mohamed Abdelaziz a participé à la création du Front Polisario en 1973. Il a été l'un de ses principaux chefs militaires avant de devenir le numéro 1 en 1976. Il aura défendu avec le soutien de l'Algérie l'indépendance de l'ancienne colonie espagnole, annexée par le Maroc en 1975. La mission onusienne au Sahara occidental supervise un cessez-le-feu proclamé par le Polisario en septembre 1991. Un plan de l'ONU pour un référendum d'autodétermination est toujours bloqué depuis 1992 par le Maroc, qui milite pour une large autonomie sous souveraineté de Rabat.
Le Caire a promis mardi l'ouverture d'une enquête sur des accusations selon lesquelles un responsable égyptien aurait qualifié les Africains subsahariens de chiens et d'esclaves lors d'une conférence de l'ONU au Kenya, des propos qui ont suscité un tollé sur les réseaux sociaux. Les accusations ont été formulées par la représentante du Kenya auprès du Programme des Nations Unies pour l'environnement, Yvonne Kamati, dans un mémorandum qu'elle a rédigé et circulant sur Twitter. Au Caire, le ministère égyptien des Affaires étrangères a toutefois assuré que les informations dont il dispose jusqu'à présent démentent totalement ces accusations.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un avion d'Égyptair transportant 243 passagers à destination de la Thaïlande a été évacué tôt mercredi matin à l'aéroport du Caire en raison d'une fausse alerte à la bombe. C'est ce qu'ont annoncé des responsables de l'aéroport et la compagnie aérienne elle-même. Elle a expliqué dans un communiqué qu'une alerte mensongère faisant état d'une menace sécuritaire à bord de l'avion avait été reçue. Le 19 mai dernier, un vol Paris-Le Caire d'Égyptair s'est abîmé en Méditerranée avec 66 personnes à bord.
Le président du syndicat égyptien des journalistes et deux collaborateurs seront jugés pour avoir abrité deux reporters recherchés par la police, ont indiqué mardi des sources concordantes. Le président du syndicat, Yahya Kalash, le secrétaire général de l'organisation Gamal Abdelrahim et le chef de sa commission des libertés Khaled El-Bashi ont été libérés sous caution tard lundi soir après plus de 24 heures de garde à vue, a indiqué à l'AFP l'avocat de M. El-Bashi, Karim Abdelradi.
Les forces irakiennes faisaient face mardi à une forte résistance du groupe djihadiste État islamique dans leur avancée vers le centre de la ville de Fallujah, où le sort de dizaines de milliers de civils bloqués suscite de vives inquiétudes. Soutenue par l'aviation de la coalition internationale, dirigée par les États-Unis et conduite par l'unité d'élite irakienne de contre-terrorisme. Les forces gouvernementales sont entrées lundi dans Fallujah, au 8e jour de leur offensive, pour chasser les terroristes de ce bastion djihadiste situé à 50 km à l'ouest de Bagdad.
Le parquet de Bahreïn a annoncé mardi la libération, pour des raisons humanitaires, de l'opposante Zeynab al-Khawaja. Elle était emprisonnée depuis mars avec son enfant âgé d'un an et demi. Les États-Unis, dont le siège de la 6e flotte est à Bahreïn, ont salué cette libération tout en fustigeant la condamnation la veille du chef de l'opposition chiite.
Enfin, 9 jours de l'Euro 2016 de football, la situation se complique encore pour le gouvernement français. Confronté à une grève illimitée dans les chemins de fer après 3 mois de fronde contre une réforme du droit du travail. Pour la 8e fois depuis début mars, les employés de la SNCF, transporteur officiel de l'Euro, ont entamé une grève mardi soir, cette fois-ci pour une durée illimitée.
La Minute Éco, John Linden.
La Sierra Leone a annoncé hier l'annulation de 57 permis d'exploitation et d'exploration miniers pour relancer ce secteur crucial de son économie en écartant les compagnies qui gèrent mal les ressources. L'économie sierra-léonaise a été durement touchée par l'épidémie d'Ebola qui a frappé le pays pendant 2 ans, provoquant une chute de 21,5% de son PIB en 2015, selon les statistiques officielles. Le Cameroun fait actuellement face à la peste porcine, selon la presse locale. Une épisodie de peste porcine a fait surface dans la localité de Gouna, dans le département de la Bénoué. La peste porcine avait déjà sévi dans cette partie du pays en 2010. Selon le docteur Goné, délégué régional du ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, cette épisodie est arrivée dans cette localité par des élevages infectés de la région à la suite d'échanges frontaliers. La grippe aviaire sévit également au Cameroun, ce qui a poussé le Gabon voisin à annoncer un embargo sur les importations de volailles et viande porcine du Cameroun. Le président nigérien Muhammadu Buhari se rendra demain pour la première fois en tant que chef d'État dans le Goniland, région pétrolière très polluée, mais aussi visée depuis le début de l'année par une vague d'attaques d'un groupe rebelle, les Vengeurs du Delta du Niger, qui menace la production pétrolière du pays. Officiellement, le président nigérian se rend dans le sud pour y lancer une opération de nettoyage présentée comme historique.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Série de matchs amicaux hier sur la planète football.
Oui, un match nul, 1-1 entre le Kenya et le Soudan, le Zimbabwe qui bat l'Ouganda 2-0 et le Nigeria qui est allé battre le Luxembourg 3-1.
Et à suivre ce mercredi,
la Corée du Sud se déplace contre l'Espagne, la République tchèque face à la Russie et la Belgique qui accueille la Finlande.
Football toujours, l'Ivoirien Serge Aurier au tribunal pour une nouvelle affaire.
Serge Aurier est resté en garde à vue près de 24 heures. Le footballeur ivoirien, arrêté après un contrôle dans la nuit de dimanche à lundi, comparaîtra devant un tribunal le 26 septembre pour violence sur policier à Paris. Pour l'heure, ni le défenseur du Paris Saint-Germain ni son club n'ont réagi à cette nouvelle affaire.
Ouverture du procès de Messi pour fraude fiscale.
Le procès de l'attaquant argentin du Barça, Lionel Messi, pour fraude fiscale, a démarré hier à Barcelone en son absence, une semaine avant le premier match de la Copa América à laquelle il doit participer avec la sélection argentine. L'attaquant âgé de seulement 28 ans et son père doivent s'expliquer sur une fraude fiscale présumée atteignant plus de 4 millions d'euros. On rappelle que la présence de Lionel Messi n'est pas obligatoire jusqu'à son audition prévue après-demain avant les plaidoiries de la défense et les réquisitions.
Tennis, Roland Garros perturbé par la pluie.
Les matchs opposant le Français Richard Gasquet au Britannique Andy Murray et l'autre rencontre entre le Suisse Stan Wawrinka tenant du titre à l'Espagnol Albert Ramos en quart de finale à Roland-Garros ont été reportés à ce mercredi en raison du retard lié à la pluie. C'est ce qu'a annoncé hier la direction du tournoi. La journée de lundi avait déjà été entièrement annulée à cause des intempéries. C'était la première fois depuis 2000 qu'aucun match ne s'était joué lors d'une journée de Roland-Garros.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, en ce mercredi 1er juin 2016. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Crime d'Issenabré. Human Rights Watch prépare un rapport accablant sur le rôle de la France. Que savait Paris? C'est la question de l'ONG qui enquête depuis 1999 sur le système de répression d'Issenabré et a préparé deux rapports en voie de finalisation. Un premier sur les relations entre le Tchad et les États-Unis et un second sur la France. Du fait de la coopération militaire entre Paris et N'Djamena, beaucoup s'interrogent sur le rôle de la France à l'époque. Nicolas Pinault a joint l'auteur du rapport, Henri Tullier, consultant pour Human Rights Watch.
La France était certainement informée des exactions qui étaient commises au Tchad à l'époque du régime de Issenabré. Peut-être pas dans l'ampleur et dans le détail, comme ces preuves sont sorties dans le procès de Issenabré, mais il est indéniable que la France avait des informations. Il suffit par exemple de voir les nombreux rapports d'Amnesty International qui étaient publiés à l'époque sur le Tchad, notamment sur le sud du Tchad, où de 83 à 85 s'est déroulée une violente répression contre les populations civiles, surnommée Septembre Noir. On peut aussi rappeler que l'ambassadeur de France à l'époque a survolé cette région par avion et a pu constater depuis son avion les nombreux villages qui avaient été brûlés.
Au-delà de l'information, de la connaissance de ces faits, est-ce que la France a aidé d'une manière ou d'une autre le régime Issenabré?
On peut même dire que la France a permis à Issenabré de se maintenir au pouvoir pendant de nombreuses années, puisque Abré, qui était en guerre avec la Libye, avait besoin d'un soutien extérieur pour faire la guerre aux Libyens, mais aussi aux soldats du Gount, ce gouvernement provisoire de Gukuni Wedei, appuyé par les Libyens et qui essayait de reprendre le pouvoir. Ainsi, la France a déployé une très grosse opération militaire en 83-84, qui s'appelle l'opération Manta, qui est le plus grand déploiement de l'armée française depuis la guerre d'Algérie. Puis, à partir de 87, l'opération Épervier, où là, on a déployé des avions d'observation et d'attaque. Mais pendant toute la durée du régime de Issenabré, il y avait aussi une grande coopération militaire, puisque la France a livré une quantité impressionnante d'armes, a mis à disposition de l'état-major de l'armée tchadienne des conseillers français, des officiers de l'armée française. Et puis, par exemple, la France avait aussi sur place des agents de la DGSE qui devaient, en théorie, faire remonter l'information vers Paris, notamment sur les exactions qui étaient commises. On a aussi la preuve que des formations étaient faites entre des agents de la DGSE et des agents de la DDS, la Direction de la Documentation et de la Sécurité, qui est la police politique du régime Abré et le principal organe responsable des crimes qui ont été commis.
Est-ce que la France a toujours montré une volonté de faire la lumière ou elle oppose forcément le secret défense?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le cadre de nos enquêtes, on a eu du mal à obtenir des entretiens, des rendez-vous avec des personnes qui jouaient un rôle important à cette période. On a eu, et je les remercie, des personnes qui ont évidemment accepté de nous parler. Nous avons aussi demandé à ce que les archives de l'Élysée portant sur cette époque soient déclassifiées, ce qui nous a été refusé afin de ne pas porter atteinte à la politique étrangère de la France.
C'était Henri Tullier, joint à Paris.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Issenabré en procès pour l'histoire. C'est la première fois qu'un tribunal africain juge un ancien chef d'État du continent pour crime contre l'humanité dans un pays autre que celui de l'accusé. La procédure contre l'ex-président tchadien peut-elle servir de modèle pour juger d'autres ex-leaders africains pour violation présumée des droits de l'homme? Les dirigeants africains seront-ils davantage tentés de revoir leurs relations avec la Cour pénale internationale? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
En République démocratique du Congo, la crise politique perdure, le contentieux porte sur l'organisation de la prochaine présidentielle et sur celui qui doit continuer à diriger le pays après l'expiration du mandat du président Joseph Kabila. Un arrêt de la Cour constitutionnelle autorise le président sortant à rester en place jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau président élu. Eric Manirakiza a joint à Lubumbashi le secrétaire exécutif de la Convention des Congolais pour la transition et de la nouvelle société civile congolaise, François Kandé.
Le problème de l'unité de la RDC est un problème qui est déjà posé avant. L'État congolais n'a pas su, du moins jusqu'à aujourd'hui, mettre fin à l'insécurité à l'est du Congo. Les Congolais aujourd'hui veulent vivre en paix, veulent vivre ensemble. Les Congolais veulent protéger ce patrimoine qui est la RDC.
Le Congo connaît des problèmes internes politiques. Vous parlez de risque d'insécurité. Est-ce que c'est une situation qui risque d'encourager la naissance de nouvelles rébellions?
Nous avons la solution pour résoudre le problème politique que nous traversons aujourd'hui. C'est que les uns et les autres acceptent de respecter la loi fondamentale qui est la Constitution, qui détermine les prérogatives de chacun, qui détermine aujourd'hui la constitution de la RDC, comment le pouvoir va être géré, comment aussi il peut être perdu.
Vous parlez d'un cadre de référence. On sait qu'il n'y aura pas d'élection à la date prévue. Le président Kabila a été maintenu par une décision de la Cour constitutionnelle qui est décriée par l'opposition. N'est-ce pas une source de déstabilisation, d'insécurité?
Oui, pas seulement au Congo, mais dans n'importe quel pays. La Constitution, comme je vous ai dit, c'est la loi fondamentale et le français n'est pas violé. Donc, lorsqu'elle est violée, cela crée une certaine insécurité. Le mandat a une durée, comme le mandat du président des États-Unis, ça durait de 4 ans. Le mandat a une certaine durée. Mais si pendant ces temps, il y a impossibilité d'organiser les élections, alors nous nous retrouvons malheureusement au pied du mur.
François Kandé, Convention des Congolais pour la transition et de la nouvelle société civile congolaise, joint à Lubumbashi.
VOA Afrique en RDC à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Une semaine après qu'un foyer d'épidémie de grippe aviaire a été identifié au Cameroun, Libreville a annoncé un embargo sur les importations de volailles et de viande porcine de ce pays voisin du Gabon. De la capitale gabonaise, notre correspondant Jean Revis Dabani nous dit que les professionnels du secteur ne cachent pas leur inquiétude.
Wagé, petit fermier togolais installé depuis 30 ans au Gabon, a d'abord eu peur pour les 2000 poulets qu'il élève lorsqu'il a appris que le Cameroun a abattu un cheptel de près de 1500 volailles après la réapparition de la grippe aviaire dans ce pays frontalier avec le Gabon. Puis, il s'est rassuré car au Gabon, le poulet est très porteur et la demande est forte.
Ça nous a beaucoup inquiété puisque d'ici au Cameroun, c'est pas loin. Quand ça arrive au Cameroun, bon, enfin, ça peut arriver ici. Quand ça arrive ici, bon, ça, c'est pour nous gaspiller aussi notre travail. Donc, on ne veut pas que ça arrive ici. On n'amène pas des poulets de Cameroun ici. On ne veut pas que les grippes aviaires arrivent ici au Gabon. On ne souhaite jamais ça.
Dans sa ferme située au nord de Libreville, ces deux travailleurs à temps plein bichonnent les 2000 poulets dans des enclos couverts en même temps qu'ils élèvent des pintades. Le Gabon a suspendu cette semaine les importations de poulets vivants et les produits dérivés jusqu'à nouvel ordre, en renforçant des mesures de protection à la frontière avec le Cameroun. Autant de nouvelles moins alarmantes qui rassurent Wagé.
Les poulets de Cameroun, quand tu vas amener ici à Gabon, il faut le papier, le papier. Si tu n'as pas de papier, tu n'as pas de sens d'amener ça ici au Gabon.
Cette exploitation, démarrée il y a 6 ans sur fonds propres, a compté dans le passé jusqu'à 3000 poulets avant de décliner à la suite des problèmes avec un concessionnaire privé. La grippe aviaire, cet exploitant semble plus préoccupé par la gestion de sa ferme que par cette maladie qui a été identifiée en périphérie de Yaoundé et dont le Gabon semble avoir été épargné jusqu'à ce jour. Même si le secteur de l'agriculture et de l'élevage est peu développé au Gabon, l'élevage de poulets est un secteur d'avenir. Avant la réapparition de la maladie au Cameroun, le poulet s'écoulait sans publicité. Depuis, une certaine psychose a malgré tout gagné les esprits, ce qui inquiète les revendeurs.
Ça nous inquiète, ça. Forcément, ça nous inquiète parce que le Cameroun, c'est le pays voisin. Non, les poules sont importées au Cameroun, en Afrique du Sud, en France. Et pour le moment, j'ai su que l'État gabonais, d'abord, pour le moment, a interdit qu'on a les poules qui sortent du Cameroun doivent encore entrer ici. Mais depuis qu'on a parlé de l'affaire de grippe aviaire, là, logiquement, ici, les gens sont dans les inquiétudes. Il n'y a plus beaucoup de clients comme avant.
dans le cheptel de Ouagé, c'est pour les snobles visiteurs, mais à court à la grille en entendant les bruits des bottes de leur patron. Libreville, Jean-Rovis Dabani, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Le Togo mise sur les jeunes pour la promotion des valeurs citoyennes tout en les autonomisant financièrement. De jeunes Togolais déscolarisés ont bénéficié d'un programme pilote qui leur a permis de faire des travaux communautaires, mais aussi d'épargner de l'argent pour se prendre en charge. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
Le Togo, dans sa quête de réduire la pauvreté, veut faire de l'une des couches vulnérables de sa société, qu'est la jeunesse, un atout. Confrontés au chômage, des jeunes Togolais ont entre-temps perdu des valeurs citoyennes et s'estiment incapables de jouer un rôle dans le développement du pays. Ayant fait ce constat, le gouvernement a initié le programme de volontariat qui, dans un premier temps, était dirigé vers des jeunes diplômés sans emploi. Depuis décembre 2015, un autre volet a été lancé et concerne les jeunes déscolarisés ou semi-scolarisés. Il est dénommé JDS. Victoire Sidemero Dogbet-Omega, la ministre en charge de la jeunesse.
Le programme JDS, donc jeunes déscolarisés volontaires pour le développement, c'est un programme qui est à sa phase pilote. Les 582 premiers volontaires ont choisi de se mobiliser pour travailler pour leur communauté. Ces jeunes s'approprient les valeurs citoyennes, elles contribuent au développement de leur quartier et également ils ont peut-être réussi à mobiliser des moyens pour pouvoir se prendre en charge et à être autonomes.
Pendant 4 mois, 582 volontaires, dont 380 jeunes dames, ont eu à travailler sur 18 sites afin d'assainir la ville de Lomé. Nous avons rencontré quelques jeunes au cours d'une opération de désherbage.
Pendant les 4 mois, nous avons curé les carnivaux. Et nous avons aussi enlevé des dépotoirs sauvages. Et à part ça, nous avons aussi appris comment vivre en société. J'ai aussi appris la valeur citoyenne.
Au début, c'était un peu difficile, mais au fur des jours, on a fini par s'habituer. On a eu à travailler dans des quartiers, on a cuvé des carnivaux, on a détruit des dépotoirs sauvages.
Et c'est un projet très intéressant. Au même moment, on apporte notre pierre à l'édifice, mais nous aussi, on bénéficie de quelque chose. On a eu entre nous à faire de petites discussions qui ont changé quelque part notre vision par rapport à l'entrepreneuriat, la citoyenneté, la sexualité.
Arrivés à la fin de leur mission, les jeunes auraient bien voulu travailler dans de meilleures conditions. Ils ont fait allusion essentiellement à la protection sociale.
Nous allons souvent sur les dépotoirs, ou soit nous allons dans les caniveaux. Bon, nous avons les bottes et les gants. Mais s'il y a une personne souffrante, au moins il faut qu'il y ait un accompagnement. Par exemple, qu'on soit assuré au moins durant le projet pour que les soins que la personne aura à subir soient payés par le projet. Moi-même, j'ai été souffrant sur 3 jours. J'ai dû sortir l'argent de ma propre poche pour me soigner.
Qui nous offre beaucoup plus de matériaux, des produits pharmaceutiques, des assurances vie ou maladie, parce que sur le terrain, on se blesse, on tombe malade.
Selon la coordination, le programme JDS a été une bouée de sauvetage pour des jeunes en perte d'espoir qui peuvent désormais entrevoir l'avenir avec sérénité. Le programme Jeunes volontaires déscolarisés entre dans sa phase d'exécution. 1500 jeunes vont être mobilisés dans 5 villes de l'intérieur du pays, en plus de Lomé. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Salut les amis, ici votre gars Roger Muntou en direct de Bamako au Mali. Les amis, je suis en train de faire des émissions en direct, en live. N'hésitez pas, appelez-nous au 001 202 619 3140. Envoyez-nous vos SMS au 001 703 350 37 31. RM Show en direct de Bamako au Mali. Cette semaine, on est ensemble. Suivez-nous aussi en direct, en live sur notre page Facebook VOA Afrique. Ah oui, ça chauffe et ça cartonne ici, VOA Afrique, en direct de Bamako, Mali, avec votre gars Roger Muntou de RM Show. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Setoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.